Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous donnons la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Mais philosophe, est-ce un métier ou est-ce une vocation? Comment se fabriquent les idées et quel rôle les philosophes doivent-ils jouer dans la cité? Mon invité aujourd'hui est agrégé de philosophie, il est le fondateur du think tank Génération Libre, il enseigne à Sciences Po, il a découvert les penseurs du libéralisme lors d'un séjour à l'Université de Columbia au début des années 2000, il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, essais et fictions, dont le dernier propose un voyage au pays de l'intelligence artificielle, et sa notoriété est devenue planétaire lors de son apparition aux côtés de Natalie Portman dans le film Jackie qui raconte les déboires de la famille Kennedy.
That night before we moved the casket to the Capitol, do you know what I wrote? That I wanted to die. No, I was just hoping that if I walked down the street next to Jack's body, maybe someone would be kind enough to do it for me.
In front of the whole world, famous life, famous death.
But I never wanted fame. I just became a Kennedy.
Bonjour Gaspard Koenig.
Bonjour.
Bienvenue sur le chemin de la philosophie. C'était pas une blague, vous avez vraiment joué dans ce film Jackie?
Oui, mais alors on m'entend pas dans votre son pour une bonne raison, c'est que j'avais une seule réplique qui était yes. C'était pas la seule que je pouvais dire avec un accent correct et qui a été coupée au montage. C'était particulièrement frustrant, mais j'ai suivi un cercueil pendant 15 jours aux côtés de Natalie Portman et c'est la première fois de ma vie que j'ai été engagé uniquement sur la base de mon physique. Puisqu'il est apparu que je ressemblais à Ted Kennedy, le petit frère.
C'est pas faux d'ailleurs, oui.
Le seul survivant, enfin, il est décédé il y a quelques années. Et donc tous les matins, on me maquillait. Alors c'est très dur le cinéma, parce que on vous maquille, on vous met des lentilles de contact. Il prenait toujours beaucoup de temps. Tout le monde m'enfonçait le doigt dans l'œil jusqu'à temps qu'elles aient bien pénétré. Et puis après, on attend, sous la pluie, dans le froid. Mais enfin, à côté de Natalie Portman, donc ça compense.
Vous en êtes fier?
Non, mais c'était, disons que c'était une expérience complètement invraisemblable et inattendue, et donc, dans ces cas-là, il faut toujours sauter à pieds joints et ne pas trop se poser de questions.
Vous êtes le premier philosophe acteur qu'on reçoit, en tout cas, à ce micro, alors félicitations. Je vous ai présenté d'ailleurs comme philosophe, est-ce que vous vous présentez comme philosophe?
J'ai toujours un peu de mal avec ce terme, parce que ça entraîne trop de questions. Quand on dit je suis économiste, on vous demande pas exactement ce que vous faites, on comprend. Quand vous dites que vous êtes ingénieur, on comprend, vous n'avez pas besoin de spécifier. Quand vous dites que vous êtes philosophe, c'est un peu comme si vous disiez « je suis sage ». C'est comme si en fait vous vous donniez un compliment. Et donc généralement je dis « je suis écrivain » parce que d'abord j'écris aussi des romans. Et que pour moi le travail du concept ou le travail de l'essai philosophique est aussi avant tout un travail d'écriture. Et c'est très important de soigner sa phrase, de bien écrire. Et je pense que ça permet d'enrichir considérablement le fond de ce qu'on veut dire.
Vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie?
Comme énormément de jeunes apprentis philosophes français, c'était en tombant amoureux de ma prof de philo, en l'occurrence, en terminale, que j'ai suivi en hippocagne, amour platonique, bien entendu, puisque nous sommes en philosophie. Mais elle m'a vraiment fasciné. Et puis elle,
comment s'appelait-elle?
Nathalie Chouchan. Et puis elle. Alors, c'était une leibnizienne, enfin, elle avait beaucoup écrit sur Leibniz, et elle nous enseignait un peu ce qu'on appelle parfois la philosophie du désir, c'est-à-dire la ligne bien connue qui va de Spinoza à Deleuze en passant par Nietzsche, qui ont donc été mes premières découvertes de philosophie jusqu'à faire une mémoire sur Deleuze.
Donc vous pensez que sans Natalie Chouchan, vous ne seriez jamais devenu philosophe?
Oui, j'avais aucune idée de ce que c'était, et j'en avais pas particulièrement envie, j'avais jamais rien lu de philosophique, mais c'est toujours un prof qui vous aiguille au fond et qui vous fait découvrir les textes. Et je plains ceux qui en terminale ont un prof ennuyeux parce que ça doit priver la philosophie de tout son sel.
Et vous avez tout de suite décidé d'en faire votre métier, de passer les concours d'enseignement?
J'avais très envie d'avoir la possibilité de continuer à lire des textes. Et donc la seule possibilité pour faire ça, c'était de suivre des études de philosophie. Et c'était toujours vraiment un moment d'excitation. Quand on découvrait un nouvel auteur avec une nouvelle bibliographie et qu'on rentrait dans un nouvel univers. Mais en revanche, ce qui m'a assez vite frustré, c'est la spécialisation. Dès qu'on entre à normal, la philosophie se professionnalise. Et ça m'a jamais beaucoup plu. Les colloques académiques sur les philosophes me font plutôt penser à des exercices de théologie qu'à des exercices de philosophie. où de plus en plus on fait de l'histoire de la philosophie, on prend les textes comme des textes sacrés, où on décortique la moindre virgule, savoir ce qu'il voulait dire, dans quel contexte il l'a dit. Et moi, je m'ennuie assez vite, en fait. Quand j'ai compris un auteur, j'ai envie de passer à la suite, ou j'ai envie de l'appliquer dans le réel, j'ai pas envie de passer 10 ans à le décortiquer. Je pense que c'est pas intéressant, je pense que c'est pas pour ça qu'ils écrivaient, d'ailleurs. Et ce que je dis toujours à mes élèves, c'est ne lisez pas l'appareil de notes, ne lisez pas les introductions, ne lisez pas l'histoire de la philosophie, plongez-vous dans les textes, ce sont des êtres humains qui écrivent à des êtres humains, qui font plein d'erreurs, qui disent parfois absolument n'importe quoi. Mais c'est pas grave, ils vous parlent à vous et ils sont accessibles. Alors qu'on a un peu barricadé la philosophie derrière un appareil de notes qui donne aux gens l'impression d'être intelligents, en tout cas qui leur donne l'occasion d'exercer une intelligence très, très conceptuelle, très brillante, mais qui souvent tourne à vide.
Vous aviez un modèle en philosophie en dehors de votre prof de philo? Un philosophe en particulier que vous teniez?
Ça a longtemps été Deleuze, parce que c'était très nouveau, c'était très révolutionnaire. Et puis quand je commençais à faire de la philosophie, Deleuze était mort seulement 5 ans auparavant, donc c'était encore extrêmement neuf, extrêmement radical. Et je me suis toujours demandé, je me demande toujours si c'est du lard ou du cochon, pour le dire trivialement. C'est-à-dire que on se laisse porter par le texte et on trouve ça absolument formidable et renversant. Et puis de temps en temps, on se dit mais enfin. Tout ça, c'est un peu fumeux. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
On va l'écouter si vous voulez bien.
Oui, volontiers.
Ce qu'on appelle la culture bourgeoise, ça repose essentiellement sur ceci. Quelqu'un fait un geste, un clin d'œil, ça veut dire quelque chose. C'est la machine d'interprétation. C'est comme des putains, quoi. Les Français, ils s'offrent toujours à l'interprétation. Interprétez-moi, interprétez-moi. C'est une espèce de machine conjugale. La conjugalité, c'est l'interprétation. Ah, t'as fait ceci, t'as fait ce geste-là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire?
Et alors, quand vous écoutez ça, Gaspard Koenig, vous dites c'est du lard ou du cochon?
J'hésite toujours. J'hésite toujours, et je trouve que Deleuze fait quand même un peu partie de ces philosophes qui sont... Alors, il était très connecté à l'actualité scientifique de son temps, et ça, on le voit dans les notes en bas de page, c'est-à-dire que quand on a l'impression que ça part n'importe où et qu'on regarde son appareil de notes, on s'aperçoit qu'en fait, il a vraiment lu ce qui était à la pointe de la biologie, par exemple, de son époque. Mais quand il en tire des grandes généralités sur le signe, le sens, la signification, je suis toujours un peu gêné avec ça. J'ai toujours du mal à comprendre vraiment ce que ça veut dire. Alors, on peut l'emboîter, hein, on peut en faire des thèses, c'est très bien, mais... C'est parfois assez difficile à appliquer à la vie.
Un autre philosophe qui a compté pour vous, et dont la conception d'ailleurs, non pas tellement de la philosophie, mais du métier de philosophe, peut-être se rapproche de la vôtre, c'est Jean-François Revel.
Je me suis rappelé le vers de Hölderlin, « Wozu Dichter, pourquoi des poètes ?» Et j'ai calqué mon titre sur Hölderlin, c'est-à-dire que j'ai appelé mon livre « Pourquoi des philosophes ?» Surtout parce que Heidegger cite Hölderlin, en se demandant pourquoi il y a des poètes, et il me semblait qu'il ne se demandait pas suffisamment pourquoi il y avait des philosophes. Et c'est tout, c'est la réflexion traditionnelle de la philosophie sur elle-même, puisque, au fond, les philosophes ne font jamais autre chose que de disputer le titre de philosophe à tous ceux qui les ont précédés.
Qui est Jean-François Revel?
Jean-François Revel, ça a été une formidable lecture, d'abord parce qu'il m'a initié au libéralisme comme philosophie politique. Alors lui-même n'est pas un philosophe au sens où il n'a pas construit un système, mais c'est un formidable pédagogue et essayiste pour son époque. Et c'est justement quelqu'un qui soignait énormément son style, qui était capable de parler de philosophie, mais aussi de cuisine, mais aussi d'Italie, mais aussi de Proust, avec le même talent. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Et quand on lit des textes, on rigole, et je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de rigoler quand on lit un texte philosophique. Après, et pourquoi des philosophes en particulier? M'a marqué parce que ce sont les deux raisons qu'il donne sont exactement les raisons pour lesquelles j'ai quitté globalement l'université en philosophie. C'est que d'une part, la philosophie s'est éloignée des sciences et que d'autre part, elle s'est recroquevillée sur l'histoire des idées. Et ça, il le montre très bien. C'est un texte qui est écrit, je crois, après la guerre, en 49, et qui précède justement son propre changement de carrière. Et je trouve que ça reste extrêmement juste. Et c'est vrai qu'il y a toute une... Alors là, il parlait des cités Heidegger, il critique beaucoup Heidegger. Il y a toute une philosophie qui se plaît de mots très abstraits. Et Revel dit très justement, en fait, si on prenait l'être et le néant de Sartre et qu'on enlevait tout ce qui est étant, non-étant, existant, existentiel, etc., on retrouverait en fait un texte de 100 pages magnifique d'analyse psychologique et sociale très profonde sur les exemples que tout le monde connaît du serveur de café au ski. Et au fond, je trouve ça assez juste et assez réjouissant comme manière de voir les choses.
Comment est-ce qu'on continue à pratiquer la philosophie en dehors de l'université? concrètement?
Bah, c'est un drôle de positionnement qui n'est pas évident même à soutenir socialement. Mais moi, je trouve que c'est intéressant, la philosophie, si elle est extrêmement intriquée au réel et qu'on fait constamment des allers-retours entre la volonté de système qui est inhérente à la pensée philosophique, qui je pense même la définit. J'avais été très intéressé par le texte de Condillac, le traité sur les systèmes, où il dit, au fond, c'est la logique même de la pensée de faire un système, mais en même temps, c'est ce qui prouve qu'elle a tort. Parce que si on fait un système dans lequel l'ensemble du monde est représenté, c'est forcément qu'on est tombé à côté. Et c'est comme ça qu'il critique sur la forme et pas sur le fond tous les philosophes qui l'ont précédé, comme aurait dit Revel. Et donc, il y a cette tension entre la volonté de faire un système et en même temps, la nécessité d'aller voir très concrètement comment les choses se passent. Et je pense que si les philosophes font pas un effort, chacun dans leur champ, les épistémologues pour pratiquer les sciences, les philosophes politiques pour aller sur le terrain de la cité, je pense qu'ils se noient dans l'histoire de la philo, dans l'université qui est souvent assez grise. Et la manière dont j'ai pas forcément théorisé comme ça, mais enfin ça s'est arrivé comme ça dans ma vie, et puis au fond j'y vois maintenant une certaine cohérence, donc je l'ai pratiqué moi-même, c'est d'abord en créant un think tank qui effectivement, sur la base d'idées de philosophie politique, qui elle s'inspire d'un système qui essaye de renouveler ou qui s'inscrit dans la lignée de la pensée libérale, va demander à des économistes, des sociologues, à des juristes de travailler sur les modalités concrètes d'application de ces idées. Si je prends un exemple extrêmement facile à comprendre, celui du revenu universel pour lequel je plaide pour des raisons philosophiques de fond, surtout en m'inspirant de Philippe Van Parys, qui est un philosophe belge, qui est pour moi vraiment le maître à penser là-dessus, sur la notion d'autonomie, de liberté réelle. Et donc ça, on peut en parler, si vous voulez, pendant 15 ans dans des colloques, mais en fait, c'est beaucoup plus puissant si ensuite on essaye de comprendre, et alors ça demande évidemment de mettre un peu la main à la pâte, et de se coltiner des considérations un peu plus techniques, comprendre comment, par exemple, on le met en place en France aujourd'hui. Et du coup, on est obligé, peut-être, de changer un peu la manière dont il est conçu, et de revoir certaines ambitions. Et en tout cas, c'est cet aller-retour entre la théorie et la pratique qui enrichit le concept, d'un côté, et qui permet à l'idée d'avoir une vraie valeur de l'autre, et d'être prise au sérieux. Et ça, je le fais donc à travers le think tank sur le plan des politiques publiques, et à travers les voyages que je fais depuis 4 ans en partenariat avec Le Point, où je me balade un peu partout dans la planète à la recherche d'idées, mais d'idées incarnées par les gens.
Mais alors, il faut être très concret, parce que vous vous baladez, oui, comme vous dites, et vous en proposez les ouvrages d'ailleurs, mais vous êtes arrivé en studio avec un énorme sac. Je vous ai demandé ce que vous étiez en train de faire, vous m'avez répondu, je vais partir faire du cheval pendant 6 mois sur les traces de Montaigne.
Oui, alors ça, on anticipe effectivement, c'est mon prochain voyage, parce que le précédent voyage était consacré à l'intelligence artificielle, et donc j'ai un peu vu jusqu'où allait la logique d'un monde au fond, extrêmement planifié. Et en sortant de ce long reportage où j'ai été voir des computer scientists, comme on dit, partout dans le monde, j'ai eu envie de faire exactement l'inverse et de voir si dans notre univers, on pouvait encore faire quelque chose où on introduisait énormément d'aléas, énormément d'imprévus, et si on pouvait un peu introduire dans la modernité les réminiscences de son propre passé et de faire ça en autonomie. D'où l'idée, en fait, quand j'ai conjugué tout ça, et puis parce que j'aime monter, de refaire le parcours qu'avait fait Montaigne de Bordeaux à Rome en passant par la Bavière. C'est un assez long parcours qui passe par le nord de la Suisse, qui ensuite redescend par l'Autriche. Il avait fait à cheval, je me dis, je vais le refaire à cheval, je vais suivre exactement les mêmes étapes que Montaigne. On pourra voir, parce que toutes les villes dont il parle existent toujours. Donc je vais y aller, puis je vais voir si le pont de pierre qu'il décrit, le petit restaurant qu'il décrit, la nappe à carreaux qu'il décrit, sont toujours là, ce qui a changé, si les gens s'en rappellent.
Donc vous aurez les essais de Montaigne dans votre sac et vous allez prendre des notes de l'autre main.
Alors je crains de devoir les mettre sur un iPad parce que ça sera trop lourd pour mes sacoches. Je dois partir avec 15 kilos, donc il faudra veiller à...
Mais là, vous le faites sur les pas de Montaigne. Vous l'avez déjà fait dans l'ouvrage qui s'appelle « Voyage d'un philosophe au pays des libertés », par exemple. Vous étiez dans différents pays de la planète pour voir comment concrètement l'idée que l'on se fait de la liberté s'applique politiquement en Inde ou dans d'autres pays, pour voir vraiment, vous essayez de confronter la théorie au réel.
Voilà, encore une fois. Et d'ailleurs, c'est très riche tout ce qu'on apprend, parce que là, on parle par exemple théoriquement de mon voyage sur les traces de Montaigne, mais je suis certain que quand je reviendrai, je penserai 1000 fois plus de choses sur les essais sur Montaigne, sur le cheval, sur la nature, sur moi-même, sur l'autonomie, que ce que je suis capable de dire aujourd'hui avec simplement des connaissances théoriques. Et là, ce que j'avais fait dans ce livre-là, c'est que j'avais été, alors sur des thèmes précis, j'avais été voir comment est-ce que quand on crée un système d'incitation qui favorise la responsabilité individuelle, qu'est-ce que ça crée sur l'ensemble des différents thèmes. Donc, par exemple, la légalisation du cannabis au Colorado, les prisons ouvertes en Finlande, la tolérance religieuse au Kerala, qui est un état du sud-ouest de l'Inde, le revenu universel au Brésil, le microcrédit au Pérou, la démocratie directe en Suisse, etc. Et au fond, c'est à chaque fois une facette différente de la même idée, qui est que la politique publique est importante, la structuration sociale est importante, mais que son unique objectif doit être de rendre de l'autonomie à l'individu via, et en fait, on voit toujours les mêmes logiques. La prison ouverte, c'est qu'on fait une sorte de compte, la société fait une sorte de contrat avec le prisonnier qui s'engage à ne pas s'échapper alors même que il n'y a plus de structure carcérale qui l'empêche de s'évader et qui, du coup, retrouve le sens de sa dignité ou du moins de sa responsabilité quotidienne dans ses actions. C'est pareil quand on légalise la drogue, on dit aux gens, vous avez le droit de vous droguer, mais enfin maintenant vous êtes parfaitement informé des conséquences, on fait toutes sortes de campagnes de prévention, d'accompagnement, on vérifie les conditions d'hygiène, mais ensuite quand vous le faites, vous assumez. Le revenu universel, c'est pareil, on dit, au lieu de vous donner des subventions, en vous forçant à faire telle ou telle chose, à aller chercher du travail, en vous demandant de prouver que vous êtes pauvre, etc., on vous donne simplement une somme d'argent, donc j'ai vu ça dans un village au Brésil, sans aucune condition. Et puis on vous fait confiance pour faire les meilleurs choix pour vous-même. Donc c'est un peu toujours la même logique, mais sur des thèmes différents. Et effectivement, à chaque fois, en allant chercher un peu loin sur la planète, des pays ou des communautés qui les mettent en place de manière radicale. Et c'est assez réjouissant parce que du coup, on voit aussi les choses qui marchent. Et au fond, quand on prend la mosaïque des 13 pays que j'ai visités, on peut refaire un programme politique pour la France.
Mais justement, quand vous faites ça, c'est un travail de philosophe, de journaliste ou de politique?
Il y a un peu de tout. Il y a clairement une démarche philosophique puisque, premièrement, elle s'inspire d'un système, c'est-à-dire d'une vision générale du monde et de l'organisation politique et sociale. J'ai pas encore écrit de livre véritablement de somme sur ce que doit être le libéralisme de demain. J'espère le faire un jour. J'ai l'idée de faire ça, mais pour le moment, ce sont des briques. Et donc, le système, il évolue peu à peu, en sous-jacent. Mais en attendant, il va s'expérimenter justement, et ça me donne énormément d'idées, dans les différents pays où j'estime qu'il s'incarne. Il y a effectivement du travail journalistique, mais qui est très marrant à faire, et qui, alors là, vous confronte à l'humanité, parce que je ne vais pas voir des penseurs, je vais voir des communautés, des gens qui vivent, et puis souvent d'ailleurs, qui ont des idées politiques qui sont à l'opposé des miennes, mais je m'en fous. Et donc ça force aussi à parler à tout le monde. Et ce travail de journaliste vous force aussi à une certaine retenue, une certaine objectivité. Vous n'êtes pas pour donner votre opinion, vous êtes là pour écouter les autres. Ça fait beaucoup de bien. Et donc, effectivement, ça mêle la philosophie comme démarche. Et puis ensuite, par exemple, si on prend les prisons ouvertes, je vais comprendre comment ça marche. Et ensuite, je vais relire ça à l'aune de Beccaria, de Foucault et de Becker sur la théorie carcérale. Et à la fin de tout ça, j'aurai une opinion assez claire sur que doit être l'idéal libéral sur le plan pénal.
C'est toujours le libéralisme qui vous intéresse, le libéralisme que vous avez découvert lors d'un séjour à l'université de Columbia. Il a fallu que vous quittiez la France et traversiez l'Atlantique pour découvrir en fait les penseurs libéraux européens, c'est ça le paradoxe.
Oui, parce que naturellement, quand on est dans le système français et qu'on est biberonné à Deleuze, on considère que le libéralisme c'est le mal absolu. Et franchement, on n'a pas tellement de cours ou d'occasions de changer d'idée. Et je regrette vraiment que le libéralisme soit aussi peu enseigné. Alors, on enseigne des auteurs libéraux, mais comme philosophie politique cohérente avec une tradition qui date de 3 siècles, c'est à peu près oublié. Je me rappelle notamment avoir étudié Locke à la grecque, et j'ai vraiment découvert a posteriori que Locke était considéré comme fondateur de l'idée de propriété de soi, enfin fondateur d'un certain nombre de thèmes libéraux puis libertariens. Mais j'ai fait 6 mois sur Locke sans même qu'on a fait le contrat social, on l'a comparé à Rousseau, etc. Et peut-être qu'il y a certains cours que j'ai mal suivis. Enfin, je suis quand même assez étonné de l'absence de conceptualisation du mot libéralisme dans l'enseignement français et ensuite, par répercussion, dans le champ politique, dans le champ médiatique.
Vous expliquez comment?
Ah, il y a toutes sortes de théories. Je ne sais pas laquelle, franchement, je ne sais pas laquelle vraiment.
C'est un gros mot, libéralisme, dans l'université, c'est ça?
Oui, mais alors surtout quand vous traînez avec des philosophes et que vous êtes libéral, généralement, vous êtes.
Tous les philosophes ne sont pas de gauche.
Vous êtes bien petit cas. Non, ils n'ont pas forcément de gauche, mais ils sont généralement anti-libéraux d'une manière ou d'une autre, soit côté souverainiste, soit côté socialiste. Enfin, tout ça pour dire qu'on a perdu cette tradition qui était à la base une tradition française, en tout cas. Turgot, les physiocrates, qui ont largement inspiré Adam Smith, étaient français. Et donc ça a été, c'était d'ailleurs le mot est français. Il a été institué par Mène de Biran. Et on l'a un peu perdu. Et le cours que j'avais pris à Columbia était un cours tout à fait d'ailleurs banal de philosophie continentale qui n'avait rien de très intéressant. Mais où, tout d'un coup, en fait, j'ai trouvé la ligne qui reliait tous ces points qui m'avaient intéressé à un moment ou à un autre de ma trajectoire, dont Condillac d'ailleurs. Et où je me suis dit, tiens, mais finalement, c'est ça qui correspond le mieux à l'idée que je me fais de l'individu. Et c'est au fond une manière de penser une forme d'individualisme un peu anard, mais au sein d'un système social et politique défini avec un ensemble de règles.
Ça correspond à quel courant politique, ce que vous dites, aujourd'hui ?
Il n'y a pas de parti, en France en tout cas, qui représente cet idéal, mais je pense qu'il n'y a jamais vraiment eu de parti libéral, où les partis libéraux ont toujours été très faibles. On le voit d'ailleurs en Angleterre avec les Lib Dems ou en Allemagne avec le FDP, c'est toujours des partis qui tournent autour de 5-10%. Mais au fond, je pense que c'est pas une philosophie faite pour la lutte partisane politique, mais que c'est une philosophie tellement puissante intellectuellement que son mode de fonctionnement, c'est de convaincre en changeant les termes du débat et en influant sur l'opinion et sur ceux qui la font. Et c'est un peu la manière.
C'est très politique.
C'est très politique, mais en amont du débat public et partisan. Et c'est pour ça d'ailleurs que le libéralisme s'est beaucoup incarné, beaucoup moins dans des partis que dans des think tanks. Énormément de think tanks libéraux. D'ailleurs, si j'ai créé le mien, c'est bien parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas en France et que c'était bien dommage et que c'était aussi qu'il fallait raviver un peu la pensée qu'il y a derrière tout ça pour qu'un jour on ait la chance, la possibilité de la retrouver ou de la décliner politiquement. Et ça, je crois fondamentalement que quand vous n'avez pas de travail des idées, ça sert à rien d'investir le champ politique. C'est les idées qui président. Et c'est toujours assez rigolo de voir le parcours intellectuel des idées avant qu'elles arrivent dans la bouche d'un politique.
Vous avez fait de la politique, vous, Gaspard Koenig. Vous êtes présenté à des élections, si je ne me trompe.
Bon, c'était vraiment...
Il ne faut pas en parler.
Si, non, mais tout à fait. C'était justement pour défendre les idées libérales en candidat quasiment indépendant, enfin en tout cas en prenant l'étiquette d'un minuscule parti qui s'appelle le Parti Libéral Démocrate.
Donc c'est les élections législatives de 2012.
Oui.
Pour
en
les Français.
Représentant les Français de l'étranger à Londres.
Voilà.
Mais c'est justement là que j'ai réalisé que c'était une campagne très amusante où je pouvais décliner mes idées, parce qu'elles étaient à l'époque, elles étaient beaucoup plus rudimentaires que maintenant. Et c'est là que j'ai réalisé que précisément ça passerait pas par le système électoral ou partisan classique, et que du coup il était beaucoup plus astucieux et que ça me correspondait beaucoup plus d'ailleurs de fonder un think tank que de continuer à essayer de ramasser des voix. C'est pas une philosophie qui est facile à vendre, c'est une philosophie au second degré. Quand vous défendez la liberté d'expression pleine et entière, c'est un raisonnement au second degré qui nécessite de prendre sur soi. On est toujours tenté de dire, quand on entend quelque chose d'irritant, d'insupportable, ah non, mais ça, on ne devrait pas avoir le droit de le dire. C'est la première réaction, y compris de moi-même, de tout humain. Et se dire, ah mais oui, mais la liberté d'expression, c'est important, parce que si je ne défends pas la sienne, je ne défends pas la mienne, et mettre en place toutes ces structures qui sont au fond celles de l'état de droit, c'est toujours plus... ça se fait à froid. Et donc, c'est assez compliqué d'éveiller des enthousiasmes fous autour de ces idées. En revanche, comme je disais, elles sont assez puissantes pour s'imposer d'elles-mêmes, mais plutôt par le débat d'opinion que par le vote.
Pour continuer à bien comprendre votre pratique de votre travail aujourd'hui, Gaspard Koenig, de votre conception de la philosophie, on est obligé de bien présenter aussi d'où vous venez, votre parcours. Et il manque un élément à ce que j'ai dit. J'ai dit que vous aviez eu la grègue en 2004, vous avez enseigné à l'Université de Lille 3. Et puis vous êtes devenue de 2007 à 2009 la plume de Christine Lagarde, qui était alors ministre de l'économie et des finances. Christine Lagarde qui a tenu à raconter une anecdote, la voici.
Je me souviens qu'il m'avait accompagnée dans une visite d'usine, dans des situations qui étaient un peu délicates, de risque de fermeture, enfin où c'était assez compliqué. Et il avait donc suivi toute cette visite avec vraiment en ouvrant grand les yeux, en écoutant tout ce qui se passait. Et à la fin de la visite, il était venu me voir, il m'avait dit, avec un air vraiment touché et très profond, il m'avait dit « Mais j'ai enfin rencontré de vrais ouvriers ». C'était à la fois tellement naïf, tellement attendrissant et tellement lui en même temps, cette curiosité, cette disponibilité d'esprit sans a priori et avec toujours le désir de la découverte.
Quel parcours, Gaspard Koenig, de Ted Kennedy à Christine Lagarde. Oui. Et oui, elle parle bien de vous. Hein.
Oui, alors j'ai bien conscience que c'est pas hyper valorisant comme comme réplique.
On se pose la question, justement.
D'abord, si j'ai envie de travailler pour elle, c'est parce que, justement, j'avais une envie folle de voir comment les choses se passaient concrètement. Enfin, alors, bon, évidemment, on est en cabinet ministériel, donc Moi, pas tout, mais enfin, on voit les ficelles de la politique, de l'économie, c'est très intéressant. Et j'avais extrêmement envie de... J'ai toujours été... je botte pas en touche, hein, mais j'ai vraiment été traumatisé par la réplique de Caliclès à Socrate dans le Gorgias, quand il lui dit « Ah oui, mais toi, ta philosophie, c'est du babillage, et tu sais pas comment la société fonctionne, tu sais pas comment les gens font des contrats, tu sais pas comment les foules se comportent, en fait, tu sais rien et tu continues à babiller, tu n'as aucune utilité. » Ça m'avait toujours frappé, et j'ai vraiment eu très envie de connaître, justement, davantage que d'autres philosophes, la manière dont concrètement toutes ces choses se passent, même si on peut pas faire ça toute sa vie, il faut revenir aussi à la pratique des textes. Et effectivement, j'ai vu en 2 ans, parce que quand on est plume, on est à la fois rien et on est au centre de tout, parce qu'on est un peu dans toutes les réunions, et puis on est là à prendre des notes et à écrire le discours du lendemain. Et c'est vrai que ça m'a vacciné à tout jamais sur l'exercice du pouvoir. Mais
Ah oui, c'est écœurant, ce que vous avez vu?
Non, pas du tout, mais il faut avoir envie de se battre, il faut avoir envie de se mettre en avant, il faut avoir envie de rentrer vraiment dans des détails extrêmement, un niveau de détail extrêmement fort. Et puis surtout, on n'a évidemment pas, enfin, l'avantage de faire un think tank ou de faire de la théorie, c'est qu'on peut passer son temps à défendre des belles et des grandes idées, en disant, faut faire l'universel, voilà comment on va le faire et tout. Mais après, chacun son rôle. Et une fois qu'on est au pouvoir, on est dans un tel étau de contraintes qui viennent de partout et qui sont tellement rapides et qui tous les jours se multiplient, qu'on est obligé de naviguer à vue, forcément. Enfin, c'est assez rare ceux qui arrivent à faire autrement. Et pour la réplique sur les ouvriers, bah, c'est vrai, mais c'est aussi pour ça, par exemple, que je fais ce voyage à cheval avec Montaigne. C'est que je vais traverser la France, l'Allemagne et l'Italie en passant essentiellement par les campagnes, en logeant dans les fermes ou dans les gîtes. Et là, je vais rencontrer des dizaines de milliers de personnes que j'aurais pas eu l'occasion de rencontrer sinon. Et à chaque fois, ça fait... alors, ça sera peut-être moins candide qu'il y a 10 ans, à l'époque où j'ai travaillé pour Christine Lagarde, mais ça me permettra de... Je suis persuadé que ça m'enrichira considérablement.
Si on sort de l'usine et qu'on s'approche de votre oreille, on entend ceci. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, profession philosophe, aujourd'hui en compagnie de Gaspard Koenig. Ce que vous écoutez qui ressemble à une rhapsodie, c'est en fait Beethoven. Si vous ne connaissez pas ce passage, jetez-vous, chers auditeurs, sur la sonate pour piano numéro 32, opus 111, ici joué par Daniel Barenboim. On peut aussi l'avoir par Alfred Brendel, notamment. C'est vous qui avez choisi ce morceau, Gaspard Koenig, pourquoi?
Alors, je ne suis vraiment pas un grand musicologue, mais vous m'avez demandé quel morceau de musique j'avais envie de passer. Et c'est vrai que ce morceau m'a toujours étonné parce que c'est la dernière sonate de Beethoven. Elle a que 2 mouvements, elle est assez étrange. Et le passage qu'on entend là est franchement... encore une fois, je connais pas très bien l'histoire de la musique, mais ça fait très jazz, quoi. En tout cas, ça fait pas du tout... On n'imagine pas que c'est de la musique classique du début du 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc j'ai toujours trouvé ça hyper étonnant. Et cet opus 111, et donc la dernière sonate de Beethoven... Je l'écoute beaucoup, très réjouissant, très triste au début, très réjouissant ensuite, très sautillant. Et j'aimerais bien d'ailleurs, peut-être un jour, je ne vais pas en faire un livre ou quelque chose, mais j'ai jamais vraiment rien lu dessus, mais je suis sûr qu'il y a il doit y avoir des études, des choses qui en disent plus sur la manière dont il l'a composé, pourquoi il l'a composé.
Et on voit le mouvement plus lent qui s'installe à nouveau. C'est vrai que cette sonate est en elle-même une histoire, hein, avec un début, un milieu, une fin. Le rythme change du tout au tout. Vous disiez, voilà, je suis pas grand mélomane, mais j'aime bien cette musique en particulier. Est-ce que pour vous, votre pratique de la philosophie exclut, ou plutôt je formule les choses autrement, quel rôle joue dans votre pratique de la philosophie les autres disciplines que la philosophie, par exemple les disciplines artistiques, la musique, le cinéma, la littérature et d'autres modes d'expression que celui du concept?
Alors, j'ai surtout parlé de la littérature, qui est pour moi le plus important, en tout cas celui que j'essaye de pratiquer à côté de la philosophie, parce que j'écris des romans en parallèle avec les essais. Et la manière dont je le fais, en tout cas pour moi, c'est que le roman me permet d'aller au bout des contradictions et de faire vivre des personnages ou des situations qui sont à l'opposé de ce que je peux défendre par ailleurs sur le plan des idées. Et notamment dans le... Alors je connais bien dans le roman Kidnapping que j'ai écrit, qui, je profite pour le dire, sera diffusé sur Arte. Il a été adapté, il sera diffusé le 15 novembre, je crois, sur Arte, sous le nom de La Forêt d'Argent. Et c'est l'histoire d'une jeune infirmière roumaine qui part à Londres pour être jeune fille au pair, pour être nanny, parce qu'elle gagne beaucoup plus d'argent quand elle est infirmière en Roumanie. Et puis peu à peu, il y a une histoire qui se noue avec la famille dans laquelle elle vit, dont le père est banquier et a un projet d'investissement en Roumanie. Donc les histoires se recoupent. Et quelqu'un avait fait la critique de mon livre sans trop savoir qui j'étais, d'où je venais, et avait fait disons une critique extrêmement élogieuse, mais enfin extrêmement, pour le dire un peu brutalement, extrêmement gauchiste, en disant c'est le roman de l'oppression du sous-prolétariat par les forces capitalistes mondialisées. Et en fait, on pouvait effectivement lire ce livre comme ça, parce que cette Roumaine, pour laquelle on a beaucoup de tendresse et de compassion, je pense, à la fin, se fait un peu broyer émotionnellement et économiquement par, s'il faut bien appeler le système d'ouverture européen tel qu'on l'a conçu. Et puis, il y a aussi cet autre problème dans le roman qui est, faut-il construire ou pas une autoroute en Roumanie? Alors, bien sûr, en libéral, vous direz bien sûr qu'il faut construire une autoroute. C'est les gens qui le veulent, on va pas les maintenir dans la pauvreté et l'absence de communication, parce que ça nous fait plaisir d'aller dans les petits villages roumains pour voir la vie rurale d'autrefois. Ce que je fais par ailleurs, puisque ma femme est roumaine, donc j'y vais très souvent, et j'adore la Roumanie précisément parce qu'elle est très, on se sent très nostalgique d'une ruralité très profonde. Mais en même temps, on peut pas imposer ses propres fantasmes à une population qui, elle, a envie d'accéder à un meilleur niveau de santé, à l'eau courante dans certains cas, à des moyens de transport qui permettent d'aller en 2 heures à Bucarest au lieu de faire 6 heures de route qui se tortille. Et en même temps, je vois bien, on est tous pris dans cette contradiction, je vois bien qu'on n'a pas vraiment non plus envie que l'autoroute profite aux puissances de l'argent et détruise les jolis monastères qui étaient sur le chemin. Et c'est une contradiction. Et encore une fois, en tant que libéral, la réponse, je l'ai. Mais simplement, dans le roman, j'ai voulu qu'elle soit moins évidente et peut-être même, d'ailleurs, me contredire moi-même. Et c'est une manière de, en faisant vivre des personnages qui sont humains et qui sont donc plein d'incohérences, d'évacuer quelque part ce que la philosophie ne peut pas traiter dans sa volonté systémique. Voilà.
Ça veut dire que vous trouvez dans la fiction un espace dans lequel les choses sont plus complexes, en réalité.
Exactement.
Et d'où vient ce besoin de complexité? C'est comme si la philosophie ne répondait pas à tous vos besoins.
Oui.
Ni même la politique, ni même marcher sur les traces de montagne.
Et puis il y a aussi, de manière très, très concrète, le besoin d'écrire. Parce que, vraiment, je pense que, d'ailleurs, quand je me définis comme écrivain, c'est au fond la meilleure définition, parce que je passe vraiment beaucoup de temps à construire des phrases qui soient des jolies phrases, qui ne soient pas des phrases sèches, d'essayiste qui veut juste faire passer une idée, puis qui est plein de répétitions, qui est plein de virgules, qui est plein. Donc, c'est réussi ou pas, je sais pas, mais en tout cas, il y a cette volonté et un travail considérable de ma part d'artisan pour que la phrase soit jolie. Et effectivement, le roman permet d'aller beaucoup plus loin dans la recherche du style. C'est aussi beaucoup plus difficile à écrire, parce que quand on écrit un essai, on a à peu près un plan, on sait où on va. Et moi, je suis à peu près capable de juger si je suis content ou pas de mon travail. Alors que dans le roman, on peut écrire 7 pages qui sont en fait nulles et qu'il faut effacer. Ou on ne sait plus où on va, ou on n'a plus d'idées, on ne sait pas si le personnage est toujours intéressant ou non. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est plus compliqué. Et quelque part, je pense quand même que c'est un peu la forme ultime d'expression de la pensée, le roman. Et donc, on construit... Je vous dis, j'ai envie d'écrire un jour un livre plus systémique sur le libéralisme. Et puis après... J'en aurais terminé avec la philosophie, et puis je ne ferais plus que de la littérature.
Ah oui. Oui. La philosophie a une fin programmée pour vous.
Oui, donc une fois en 2023-24.
Bon, bah, vous reviendrez, on verra, on vous prend.
Arriver au bout du système.
En tout cas, ce que j'entends, le mot système revient beaucoup dans votre bouche, mais aussi un mot que vous n'avez pas prononcé, c'est celui d'esthétique au fond. C'est ça qui vous plaît, le style.
Bah, en tout cas, je pense que c'est pas possible de ne pas le prendre en compte. Même quand on lit Spinoza, par exemple, qui est...
C'est plutôt l'éthique, là.
Voilà, c'est bon, mais enfin, même dans son côté analytique et sec, il y a un style qui se retrouve aussi d'une autre manière dans ses scolies, où là, il raconte des histoires. Alors, je ne sais pas si c'est de l'esthétique, mais je pense que ça permet d'aller au fond de ce qu'on pense, et que quand on essaye de le présenter d'une manière qui soit dense, qui soit riche. Alors que quand on en reste au concept, c'est assez facile, en fait, de faire du concept. J'ai écrit, par exemple, un livre sur Deleuze, qui est franchement le plus mauvais livre que j'ai écrit, qui est vraiment un livre de jeunesse, au sens où c'est plein de concepts, ça se veut très malin. C'était une espèce de comparaison entre Deleuze et Kant. Alors, ça tisse des grandes idées qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et je pense que c'est, en fait, très facile et très juvénile de faire ça. Et que plus on devient mature, plus on comprend que la simplicité est ce qu'il y a de plus compliqué. Pour que la simplicité ne soit pas banale, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à écrire et à penser. Et donc je me méfie maintenant beaucoup des livres qui partent avec des mots très compliqués, beaucoup de ismes. Quant à moi, j'essaye de... Un livre qui n'est pas accessible, qui n'est pas lisible, me semble d'emblée un livre raté pour des raisons de fond, pas pour des raisons de confort.
Mais tout ce que vous dites peut s'appliquer à un livre de philosophie.
Oui, tout à fait.
Bien écrit, accessible, simple.
Tout à fait.
Voilà, c'est pas forcément le roman qui est le monopole de la simplicité.
Non, mais je pense que le roman permet d'aller encore plus loin dans la finesse, peut-être.
Allons encore un peu plus loin, alors cette fois-ci, non pas dans la finesse, mais dans l'exploration des choses qui vous préoccupent sans doute, Gaspard Koenig.
J'ai en ma possession des preuves qui peuvent attester que les campagnes du Brexit et celles de Trump ont pu être menées illégalement. Pour ma sécurité, personne ne doit savoir où je me trouve actuellement. Mais j'essaie de me battre contre deux administrations et les sociétés les plus puissantes au monde. Et tout ça en même temps. Les entreprises les plus riches produisent de la technologie. Google, Facebook, Amazon, Tesla... Si ces géants du numérique sont aussi puissants que ça, c'est parce que depuis l'année dernière, les données personnelles ont plus de valeur que le pétrole. C'est l'atout le plus précieux sur Terre.
Voilà un problème qui préoccupe beaucoup en ce moment, la question de l'exploitation des données, Gaspard Koenig. Quel rôle le philosophe que vous êtes encore, jusqu'à 2022-2023, s'attribue dans cette question ? Est-ce qu'il faut prendre position ? De quelle manière faut-il le faire ?
Oui, ben absolument. C'est justement là que c'est intéressant d'ailleurs de faire de la philosophie. C'est comment renouvelle-t-on une doctrine politique comme le libéralisme, une fois qu'on a posé ses grands principes, sur une question comme la question des données et des données personnelles. Et ben, ça fait partie évidemment intégrante de mon enquête là sur l'intelligence artificielle. Encore une fois, on peut pas tout connaître. Le philosophe, on lui demande pas d'être informaticien et de savoir écrire du code Python. Mais simplement, il doit quand même avoir une teinture des choses, avoir assez lu pour être capable de s'exprimer en ayant, faut teinture, le mot vient de Montaigne d'ailleurs, en ayant un petit peu connaissance de ce qui se passe, en n'étant pas complètement à l'ouest. Même si c'est d'ailleurs, de l'intelligence artificielle, à l'ouest que ça se passe, puisque c'est essentiellement la Californie qui est à la manœuvre. Et donc, si on applique une logique libérale à la question des données, puisqu'il y a une vraie spoliation des données aujourd'hui, l'analyse est la suivante, que nous sommes dans une forme de féodalisme numérique, ou de même que le paysan donnait l'ensemble de sa production au seigneur en échange de services gratuits et monopolistiques, protection contre la guerre ou l'utilisation des fours, des moulins. De même, aujourd'hui, on donne l'ensemble de notre production de données à des plateformes qui les retraitent et qui les valorisent, en manipulant nos comportements par la même occasion, et nous en recevons un service gratuit, monopolistique. Et la manière dont la paysannerie s'est sortie de cette mauvaise passe, c'était en peu à peu conquérant le droit de propriété. Il y a des pages de Duby sur l'émergence du droit de propriété
donc l'historien Georges Duby.
Voilà, du 11e siècle à la Révolution française, qui, je pense, s'applique en fait permettent d'expliquer beaucoup mieux que tous les livres sur la tech la question des données aujourd'hui, parce qu'on voit comment peu à peu la paysannerie a conquis le droit de céder sa terre en héritage contre le droit de main morte du seigneur, le droit de l'aliéner, de la revendre, le droit de vendre ses produits au marché, la constitution des marchés. Des marchés concrets, hein, des foires, qui étaient, comme le dit l'historienne Laurence Fontaine, une manière de progrès social, parce que ça permettait de briser les hiérarchies établies de l'Église et de l'aristocratie. Et donc c'est la conquête de ce droit de propriété qui a donné une autonomie à l'individu producteur. Et c'est aujourd'hui exactement la même logique, et c'est ce dont on devrait, ce à quoi on devrait arriver, c'est un droit de propriété sur les données personnelles, pour que nous en ayons la jouissance, que nous ayons la possibilité de la détruire, parce qu'on a droit de propriété sur quelque chose, on n'est pas obligé de le vendre précisément, on peut s'abstraire du marché, ce que dit très bien Proudhon. La propriété, ça vous donne une forme d'indépendance contre tout pouvoir central, qui fait que vous pouvez aussi détruire ou ne rien faire, vous sous-exploiter complètement, vous sortez complètement de la logique utilitariste avec le droit de propriété, et qui permet aussi, pour ceux qui le souhaitent, de le faire, fructifier, donc de... c'est le fructus, et donc de recevoir en échange de la valeur qu'on donne par exemple à Facebook, quand on poste beaucoup de choses qui, avec lesquelles Facebook produit énormément de profits, qu'on puisse en retirer aussi la valeur de cette matière première que l'on fournit, pour reprendre les termes de, j'imagine c'était Snowden qui était interviewé.
On a entendu Britannic Kaiser qui était lancé dans le pays de Cambridge Analytica.
Justement, Britannic Kaiser avait écrit...
Un documentaire qui s'appelle The Great Hack, un film documentaire de Karim Hammer et de Jehan Noujaim qui date de cette année d'ailleurs.
Et bien précisément, Britannic Kaiser, qui est une personnalité un peu trouble, hein, mais a écrit une grande tribune dans le Financial Times il y a 6 mois en appelant un droit de propriété sur les données personnelles et en disant qu'elles devaient être traitées comme des biens, comme une voiture ou une maison. Et ça va quand même être un grand débat, le débat sur la propriété privée, parce que elle est remise en cause à la fois du côté des socialistes comme Thomas Piketty, mais aussi du côté des libéraux comme Glenn Whale qui a écrit Radical Market, qui pour des raisons d'efficience du marché propose de tout mettre aux enchères et d'abolir la propriété privée permanente. Donc on voit bien que ça va être un grand débat du XXIe siècle sur lequel en plus s'ajoute le problème environnemental qui conduit un certain nombre d'intellectuels à signer des tribunes dans Le Monde en expliquant qu'il faudrait réduire, qu'il faudrait limiter la portée de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. Donc ça va être très vif, mais je pense que précisément, au lieu de l'émonder, ce droit de propriété, il faut l'étendre.
Et c'est la solution, c'est le droit de propriété. Est-ce que l'État doit intervenir dans ce débat, par exemple?
Déjà, l'État, il doit réguler les droits de propriété, c'est très important, parce qu'une fois que vous avez un droit de propriété, vous avez un droit des contrats qui se met en place, vous avez un droit commercial qui se met en place, et là, il faut effectivement toute une régulation d'État, mais une politique de la concurrence. L'idée du libéralisme, c'est pas de supprimer l'État. Je pense que les libéraux ont même créé l'État moderne à la fin du XVIIIe siècle, comme dit Durkheim. Étatisme et libéralisme ont été main dans la main tout au cours du XIXe siècle, parce que l'État était considéré comme le protecteur de l'individu contre les corporations, les corps établis. C'était la philosophie de l'abbé Sieyès. Et donc, la question, c'est quel rôle pour l'État? Est-ce que c'est de diriger ou est-ce que c'est d'assurer un maximum d'autonomie à l'individu? Et si c'est la seconde réponse, on va dire, au lieu par exemple de casser Google et Facebook, qui est une solution au fond du siècle passé pour un problème du siècle actuel, eh bien, en donnant des droits de propriété aux gens, on va leur permettre de retirer toutes leurs données des différents sites sans en perdre. C'est-à-dire, on peut dire, je reprends toutes mes données Facebook, je reprends tous mes amis, je reprends mes profils, je reprends mon historique, et je le mets sur un autre site, par exemple. Et donc, on va créer de la concurrence, on va créer les conditions de la concurrence. Et c'est ça qui la concurrence, c'est un outil de liberté, parce qu'elle permet, certes, aux entrepreneurs, aux innovateurs de grandir et de proposer des produits nouveaux, mais elle permet surtout à ceux qui les utilisent d'avoir un choix qui correspond ensuite à leurs préférences personnelles. Et comme le dit très justement Hayek, l'idée du marché, c'est pas forcément d'atteindre l'efficacité économique utilitariste complète, c'est de permettre à des gens qui ont des idées divergentes, qui ont des finalités dans la vie divergentes, de s'entendre. Parce que justement, la question ne se pose pas. Et donc, si on crée un marché des données personnelles, c'est exactement, si on crée une propriété et donc un marché des données personnelles, c'est exactement ce qui peut se passer. C'est que on reprend le contrôle, le pouvoir sur nos données, on prend un pouvoir de négociation vis-à-vis des grandes plateformes, et surtout, on gagne la possibilité de les transférer vers les nouveaux entrants qui nous proposent des solutions plus appropriées.
Le libéralisme appliqué au marché ne produit pas seulement des gens qui s'entendent. Au contraire, il y a beaucoup de dérives de ce libéralisme appliqué au marché. On est loin d'une entente où chacun mettrait en commun ce dont il est propriétaire par ailleurs. Que répondez-vous à ces détracteurs-là?
Oui, c'est un peu comme les communistes qui vous disent que l'URSS, c'est pas le vrai communisme. Moi, je vous dirais que le capitalisme actuel, c'est pas le vrai libéralisme. C'est un capitalisme de connivence où les ententes sont très fortes, où la concentration, d'ailleurs, on le voit aux États-Unis en ce moment, la concentration des entreprises est de plus en plus forte. Et que je pense que, précisément, l'Europe a un rôle très important à jouer pour rétablir une forme de libéralisme, d'ordolibéralisme, dont elle a été le champion lors de sa création. et qui permet de résoudre de manière intelligente des sujets comme les sujets numériques.
Et une dernière question qui s'adresse à vous, c'est pas celle d'un philosophe, c'est celle de Christine Lagarde, figurez-vous. Ah. Encore une question à vous poser.
Ah, mon cher Gaspard, je suis très très contente que vous ayez approfondi les questions d'intelligence artificielle. Moi, j'ai pas encore toutes les réponses. Est-ce que vous allez continuer à creuser ce sillon et à explorer un peu les relations entre intelligence artificielle, liberté individuelle, capacité d'agir, etc.
Bon, on peut lui conseiller de lire votre livre, hein, oui. La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous voulez répondre sur cette question-là plus précisément?
Pour être honnête, j'ai essayé justement de faire tout l'inverse. C'est d'ailleurs tout le moteur de mon projet à cheval avec Montaigne, c'est de sortir complètement, non seulement des systèmes d'intelligence artificielle, mais de la logique même de l'intelligence artificielle. Et très honnêtement, ce voyage a été, le voyage que j'ai fait là sur au pays de l'intelligence artificielle, qui m'a pris un an, a été quand même très éprouvant parce que c'est des milieux très durs, très fermés, c'est des sujets très arides et la vision du monde que ça propose n'est franchement pas directement compatible avec ma propre conception des libertés, société libre et de l'ordre spontané. Ce qu'on voit en Chine où l'intelligence artificielle est utilisée absolument sans aucun tabou ni aucune limite. Fait vraiment peur. Et donc, j'ai même à titre personnel plutôt envie de, maintenant que j'ai essayé de... Si vous voulez, je décline ma doctrine sur différents sujets, vous voyez comment je fonctionne. Et donc, je suis passé par ces sujets-là, je vais continuer bien sûr à en parler, à suivre ce qui se passe, mais je suis aussi très heureux de le laisser un peu derrière moi et de me plonger dans les... de me mettre sur ma selle. Le cul sur la selle, comme disait Montaigne.
C'est exactement une expression de Montaigne qui parlait de ce branloir pérenne sur lequel nous vivons tous. Où vous sentez-vous le plus utile, dans le think tank ou en tant qu'écrivain, justement, sur le terrain? Quelle est la meilleure façon d'agir, finalement?
Le think tank a un rôle plus concret parce que... alors moi, j'en suis plus... je suis plus directement opérationnel là-dedans. Il y a maintenant un directeur général qui gère les activités du think tank au quotidien. Donc, je suis beaucoup moins présent que je l'ai été. Et j'espère justement avoir mis en place une sorte de petit institut assez autonome qui est pérenne et qui survivra largement à mes propres activités et qui sera de toute façon utile au débat français. Ce que fait un think tank a une utilité plus immédiate quand même, puisque il va rencontrer les politiques, il va rencontrer d'autres think tanks, il va essayer de faire passer éventuellement des amendements, des propositions de loi. Donc il a quand même un rôle assez actif et direct dans la politique du pays. Le livre, lui, va avoir une influence à plus long terme, très clairement. Mais si le livre est réussi et si le livre continue à circuler, une influence qui peut être encore plus considérable. Regardez à l'influence de livres, même des livres comme celui de Piketty, dans le monde entier. C'est au fond, c'est une influence qui est très pérenne et qui va rester pour très longtemps, qui a posé un sujet, qui a posé un débat. Donc voilà, les deux vont en parallèle. Par exemple, quand j'ai sorti le livre sur l'intelligence artificielle, le think tank a sorti en parallèle une note plus concrète, plus économique sur la question du droit de propriété des données, qui va beaucoup plus dans le détail que n'avait pu le faire le livre. Donc ça normalement, ça va main dans la main, mais encore une fois, le think tank est capable normalement d'actions plus directes, concrètes, militantes au fond sur la société.
Mais c'est ça, on retrouve les deux chez vous. D'un côté, il y a une dimension très pragmatique d'action, et de l'autre, il y a presque une forme d'utopie. Alors j'imagine le terme ne vous plaît pas trop, mais quand même, vous imaginez une société idéale dans laquelle vous voudriez vivre.
Oui, alors le terme d'utopie...
Et vous y croyez.
Alors, on est exactement dans la tension du système dont je parlais. C'est que, bien sûr que je refuse le terme d'utopie en tant que libéral, puisque l'utopie, c'est condamné très justement par Popper, comme vouloir imposer aux autres un système qui forcément crée des frictions sur le monde réel. Je suis un partisan de la réforme incrémentale, de l'ordre spontané. Et en même temps, c'est vrai qu'à travers... tous ces voyages et tous ces thèmes que j'ai abordés, je commence à avoir une sorte de système qui, j'ai l'impression, tient la route et dont je voudrais faire une sorte de programme idéal.
Idéal peut-être. Oui, ça rapproche plus qu'utopie de ce que vous faites.
Ouais, mais au fond, c'est ce que disait Hayek d'ailleurs quand il dit le libéralisme a besoin d'utopie. Mais au fond, on peut le considérer comme une sorte d'idéal régulateur en disant regardez, et c'est quand même ça qui motive aussi les gens quand on leur propose une sorte de vision complète du monde, avec tout un ensemble de réformes parfaitement cohérents. D'ailleurs, j'ai vu avec étonnement qu'un des candidats démocrates à l'investiture pour la présidentielle américaine, qui s'appelle Andrew Yang, qui n'est pas très connu, propose le revenu universel, la propriété privée des données, les prisons ouvertes et la légalisation du cannabis. Je me suis dit, tiens, il y a quand même une cohérence et à travers l'Atlantique, il y a des idées qui se rejoignent naturellement, donc c'est plutôt réjouissant. Et en même temps, il faudra toujours veiller à déconstruire sa propre cohérence, parce qu'on sait que si on voulait appliquer, si on prenait l'ensemble de mes... C'est Boris Johnson, par exemple, c'est un essayiste plumitif qui tout d'un coup essaye d'imposer ses idées au réel, et on voit le chaos que ça provoque. Et donc, j'espère que personne ne prendra l'ensemble de mes idées en disant « ça y est, on le fait demain ». Je pense que ça serait une catastrophe pour tout le monde. Mais c'est précisément cette tension qui est intéressante.
On va inviter en tout cas les auditeurs à lire vos ouvrages. Ils pourront se faire leur propre idée. Les livres qu'on a cités aujourd'hui sont disponibles aux éditions de l'Observatoire. Vous avez aussi créé Time to Philo, qui est une autre façon de laisser les philosophes s'exprimer aujourd'hui avec les moyens numériques. On va se quitter avec une chanson. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson que vous écoutiez en préparant la Greg?
Alors absolument pas, non. Ah si, d'ailleurs... Je pense que j'ai écouté Massive Attack à l'époque.
Alors, c'est possible, mais il y avait aussi une autre chanson, visiblement. Enfin, c'est vous qui l'avez dit il y a quelques années, c'est The Avalanche, le groupe.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Frontier Psychiatrist.
Avec les hennissements, justement.
Eh bien, la voici. Merci, Gaspard Koenig.
Merci.
The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system.
Oh, Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter 2 and 3, but surely expulsion is not the answer.
I'm afraid expulsion is the only answer. It is the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane.
Boy needs therapy.
Psychosomatic.
That boy needs therapy.
You're psychosomatic.
That boy needs therapy.
Lie down on the couch.
What does that mean?
You're a nut. You're crazy in the coconut.
What does that mean?
That boy needs therapy.
I'm gonna kill
that
you.
That boy needs therapy.
Tiny kazoo. Let's have a tune. All right, count three.
That boy needs therapy.
He was white as a sheep.
And he also made false teeth.
Business continues below.
Did I ever tell you the story about
cowboys,
bitches,
and the Indians, and frontier psychiatrists?
I felt strangely hypnotized.
I was in another world, a world of
20,000 girls,
and milk,
and rectangles,
to an optometrist,
a man with the golden eyeball,
and tighten your buttocks,
pour juice on your chin.
I promised my girlfriend I could
the violin.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est philosophie, mais vendredi, c'est l'anti-manuel de philosophie.
Et aujourd'hui, Adèle, un sujet qui revient beaucoup quand on s'intéresse à toute la production entre philosophie et développement personnel, la peur. Comment l'apprivoiser? Comment la dépasser? Vivre avec ou carrément l'aimer? Ce sont les questions qui reviennent le plus souvent à propos de la peur. Et pour y répondre, Sénèque, Spinoza ou Nietzsche seraient de précieux conseillers. Mais pourquoi? Pourquoi faudrait-il se débarrasser de la peur? Faire avec ou l'aimer? La peur est-elle encore de la peur quand on l'a apprivoisée? C'est la question que je me suis posée.
Se rendre compte qu'il y a des outils qui permettent de s'affranchir de nos tendances habituelles, des toxines mentales qui empoisonnent notre existence et celle des autres. Peu à peu, par l'entraînement de l'esprit, amenuiser notre tendance à l'agression ou à la peur ou à l'anxiété ou à la jalousie, etc.
Tapez peur sur Google et vous tomberez sur toutes sortes de conseils, de tutoriels et d'astuces pour l'éliminer. La peur est mal vue, paralysante, mauvaise conseillère, émotion primaire et animale. Tout est mis en œuvre pour optimiser notre marge de manœuvre individuelle, que nous ne soyons plus empêchés par rien, ou pour réduire les risques collectifs, que nous soyons en sécurité partout. Et je dois dire que tout cela me semble vraiment paradoxal. Car à force de vouloir la réduire, l'encadrer ou l'annihiler, on rend en fait la peur omniprésente. on la rend nécessaire. Pour se donner des excuses quand on n'agit pas, ou à l'inverse, pour se glorifier d'avoir bravé le danger grâce à son courage, pour pouvoir tout sécuriser à outrance, ou au contraire, pour se vanter d'aimer les frissons. La peur, et c'est ce qui me fascine avec elle, est à la fois détestée et recherchée, haïe mais désirée, repoussée mais centrale. D'une certaine manière, c'est la définition même de la peur, émotion primordiale, elle est à la fois ce qui révèle notre fragilité face au danger et notre force face à ce même danger. Mais pourquoi aujourd'hui en parler pour la supprimer, la cultiver pour mieux l'éliminer ?
Non, attends, on va appeler la police.
Oh, c'est dans sa chambre là-haut.
Crainte, mais primordiale, pourquoi la peur a-t-elle pris tant d'ampleur aujourd'hui? Pourquoi est-elle tant présente, discutée, voire recherchée pour être en fait supprimée? C'est la question que je me suis posée en regardant une série d'horreurs déjà vieille de 9 saisons, American Horror Story. Ici, chaque saison est indépendante et surfe sur des peurs et des univers archétypaux. La maison hantée, la secte, l'asile de fous, le tueur en série, de la simple anxiété à la terreur froide, sans oublier tout le panel des phobies. C'est le cas par exemple du personnage d'Ali que l'on vient d'entendre dans la saison 7, qui a fait de ses phobies, sang, trous et clown tueur, le centre de sa vie. D'abord paralysé par elle, Ali parvient, on ne sait comment, en milieu de série, à les supprimer et à remplir le vide qu'elles ont laissé par une autre émotion, la vengeance. Ce qui est très intéressant ici, c'est que la peur n'a pas été supprimée en tant que telle, c'est la peur de la peur qui a été brisée. La peur, elle, avec sa fureur de vivre, est préservée et convertie pour persister dans l'existence et non plus seulement pour résister jusqu'à l'épuisement. Et c'est au fond ce qu'on recherche en regardant une telle série d'horreurs. Et moi, la première, je veux transformer mon rapport à la peur, je veux l'affronter, être plus fort. Mais pourquoi? Pourquoi vouloir ainsi se mettre à l'épreuve? Qu'est-ce que je veux me prouver à défier ainsi ma peur de la peur?
Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui s'appelle « Même pas peur », les clés pour mieux gérer notre peur au quotidien. Ce que nous dit l'intelligence émotionnelle, c'est que chaque émotion est porteuse d'un message. Et donc, la peur a son message. Et le message de la peur, c'est quoi? C'est je ne suis pas suffisamment préparé à une situation à venir.
Devenu l'intégrateur négatif de nos vies, notre meilleur ennemi, le mauvais objet dont on a besoin, quelle est donc cette peur que l'on aime tant détester ? Plus que le paradoxe de rendre omniprésent quelque chose que l'on rejette, plus encore que celui de transformer la peur en autre chose qu'elle-même, il y a quelque chose de pire qui me frappe dans ce rapport à la peur, c'est ce désir de se dénaturer en pensant s'améliorer. On veut transformer un signal primaire d'alerte, de survie, de doute pour mieux s'apprivoiser, comme si on ne supportait pas que quelque chose de soi nous échappe. À la fin de cette saison d'American Horror Story, je m'étais donc habituée au sang, au trou et au clown. Mais quelle tristesse! J'avais éradiqué cette peur qui me faisait agir instinctivement. Pas une part animale, mais singulière, qui me faisait aimer ou pas telle ou telle chose, qui me rendait telle que je suis. Quelle tristesse donc! J'avais définitivement perdu cette partie de moi qui m'échappait.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Manon de la Selle, en compagnie de Jules Barbier, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger, Alain Joubert à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une nouvelle série d'émissions autour du thème de la spiritualité ou des spiritualités. On parlera de Bergson, du spiritualisme, de philosophie indienne, de chamanisme et de soufisme. Ça, c'est le programme de la semaine prochaine. D'ici là, pour réécouter ce numéro de Profession Philosophe aujourd'hui en compagnie de Gaspard Koenig ou les émissions précédentes cette semaine autour de Léonard de Vinci, c'est très facile. Vous vous rendez sur le site de France Culture, page des Chemins de la philosophie et vous réécoutez chaque émission en ligne ou bien vous la téléchargez, la podcastez pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux. Vous trouverez un compte Instagram, un compte Twitter, un compte Facebook, rien que ça, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour. Et puis on est ravis de répondre à vos remarques et à vos commentaires lorsque vous les y déposez. À lundi, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.